Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Mauger.
Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir à Canal Academy Monsieur Xavier Norte, qui est le délégué général à la Délégation générale de la langue française et aux langues de France. C'est un honneur pour nous, Monsieur Norte, de vous recevoir aujourd'hui à l'Académie française et notamment à Canal Academy.
Merci de votre accueil.
Mais je vous en prie. Alors, nous sommes mis d'accord, nous allons évoquer trois volets. Le premier volet qui nous semble très intéressant, c'est peut-être de présenter rapidement les principales commissions et principaux travaux, si vous voulez, de la Délégation générale. Voilà, alors la parole est à vous.
Merci
beaucoup. C'est très direct.
Eh bien, peut-être un mot d'abord sur cette structure qui peut paraître un peu étrange. La France dispose d'une délégation générale à la langue française et aux langues de France. On imagine mal un délégué général à la langue russe ou un délégué général à la langue italienne, mais la France s'est dotée d'une structure
qui
chargée...
Qui existe depuis quand?
Et qui existe depuis... C'est Georges Pompidou qui, en fait, l'a créée, d'abord sous la forme d'un haut comité pour la défense et l'expansion de la langue française, et ensuite ce haut comité est devenu un haut comité pour la langue française. Et la délégation générale est la lointaine héritière,
mais
si vous voulez, de cette
Philippe
structure.
Philippe Rossillon qui dirigeait cette première...
Il l'a dirigée à une époque, sous la forme alors cette fois d'un commissariat général,
ah, oui.
Mais c'est donc en 1966 que Georges Pompidou a créé cette structure, et elle est aujourd'hui chargée d'animer au plan interministériel la politique linguistique de l'État,
ah, oui.
Ce qui explique d'ailleurs qu'elle était naguère rattachée au Premier ministre. Elle est aujourd'hui rattachée au ministre de la Culture et de la Communication.
Oui, on s'y perd un petit peu, hein, il faut reconnaître, au fil des années,
oui,
moins maintenant.
Oui, retenons simplement, c'est la seule chose qu'il faut garder en mémoire, qu'il y a en France une structure à vocation interministérielle chargée de définir et d'animer la politique linguistique de l'État. Alors, elle joue un rôle de réflexion, d'impulsion, de coordination, et elle est chargée notamment, c'est sans doute sa mission principale, celle qui lui est reconnue par les textes, mais cela n'épuise pas son action, j'y reviendrai dans un instant, elle est chargée d'assurer le suivi du dispositif législatif et réglementaire qui, en France, encadre l'usage de la langue française, et c'est pour l'essentiel, comme on sait, la loi du 4 août 1994, dite loi Toubon.
Ah oui, dite loi Toubon.
Exactement.
Alors, une question, je ne veux pas vous interrompre de façon excessive, mais question qui tout de suite vient à l'esprit, je dirais, de la personne qui s'intéresse à cette question de la langue française, c'est est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions?
Moi, je vous répondrais que non, par définition, on n'a jamais suffisamment de moyens.
Vrai.
Ce qu'on peut dire, c'est que ça n'est pas une administration de gestion, à l'inverse d'autres directions d'administration centrale. C'est une administration de mission et son rôle principal, c'est d'animer, de coordonner, de susciter, de dynamiser, si vous voulez.
Vous avez des contacts avec combien de pays, par exemple?
Nous avons d'abord des contacts avec les administrations de l'État dans leur ensemble.
Ah, oui.
Et nous travaillons tout autant avec le ministère de l'Emploi, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des Affaires étrangères, bien sûr, qu'avec le ministère de la Culture, auquel nous sommes directement rattachés. Le rôle international est confié, en France, comme chacun sait, au ministère des Affaires étrangères, avec lequel nous dialoguons en permanence. Mais notre mission principale n'est pas de promouvoir la langue française dans le monde.
C'est de veiller à son application en France.
C'est de veiller à son usage et à son emploi, plus exactement, en France, parce que nous ne sommes pas les gardiens du bon usage.
Ah oui,
nous ne sommes pas une police de la langue.
C'est plutôt l'Académie, d'ailleurs.
Je ne sais pas si l'Académie se reconnaîtrait dans cette définition, mais ce serait plutôt le rôle de l'Académie française, en effet. Dans la panoplie des structures dont nous pouvons disposer en France, dans la panoplie des institutions qui, peu ou prou, s'intéressent à la langue française, nous jouons un rôle un petit peu particulier qui est de permettre à l'État de se doter d'une politique de la langue. D'une politique de la langue.
Est-ce que cette politique de la langue a beaucoup évolué depuis que cet organisme existe dans ses métamorphoses?
Oui, je crois qu'elle a évolué. Et aujourd'hui, je dirais que ce que cette politique de la langue repose sur un postulat. Et ce postulat, c'est, je vais essayer de le dire en termes simples, c'est que de tous les liens que les hommes nouent dans la cité, c'est le lien de la langue qui est le plus fort, parce que, bien que ce soit le moins visible, parce que c'est lui qui fonde le sentiment d'appartenance à une communauté. Alors sans doute, ce lien est-il plus fort qu'ailleurs en France, où, comme vous le savez, la langue a été l'instrument de l'unité politique, de l'unification politique, le ciment de l'État-nation, de sorte que la langue, avec sans doute l'attachement au territoire qui fonde l'exercice de la citoyenneté, je pense ici au droit du sol, reste sans doute aujourd'hui un des deux principaux éléments constitutifs de l'identité nationale. Et ce lien, force est de constater sans doute que la mondialisation des échanges et le progrès de la construction européenne ne cessent de le faire évoluer, et peut-être, certains le pensent, de le distendre, certains diraient qu'elle le menace. En tout état de cause, les phénomènes linguistiques liés à la mondialisation provoquent chez nos concitoyens une attente à l'égard de l'État, qui est chargé de définir historiquement la place et le rôle de la langue dans la société.
Et d'ailleurs, je remarque, si vous me permettez, que un président de la République comme Valéry Giscard d'Estaing, qui n'était pas spécialement inculturel, c'est le moins qu'on puisse dire, est devenu membre de l'Académie française.
Tout à fait.
Je remarque aussi que le président Chirac, parfois on s'est demandé un petit peu dans quel sens allait la politique justement linguistique, a défendu plus d'une fois à Bruxelles la langue française. Donc, il est intéressant de voir que au plus haut niveau de l'État, même si parfois on reproche, si vous voulez, à nos dirigeants de ne pas en faire assez, c'est évident, il y a tout de même un souci, une inquiétude, et puis surtout, une certaine fascination pour la langue française. Songez à François Mitran.
Bien sûr, on pourrait parler longuement de cette passion française, pour employer une formule chère à Théodore Zeldin. Pour la langue française, c'est d'ailleurs une passion très ambiguë, parce qu'elle est aussi tout entière tramée d'une sorte d'inquiétude. Mais il y a une passion française pour la langue. Il y a aussi, et c'est là que je voulais en venir, une attente de la société à l'égard de l'État sur la langue française, et c'est à cette attente qu'est chargée de répondre la politique de la langue que nous nous efforçons de mettre en œuvre. Alors cette politique, en quoi consiste-t-elle? Et quelles en sont les priorités? Bien, je dirais que sa première priorité, c'est de garantir un droit au français. C'est une idée toute simple, elle se trouve d'ailleurs inscrite dans la Constitution de la République, puisque dans son article 2, la Constitution dit « la langue de la République est le français ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en tant que personne, individu, vous pouvez parler toutes les langues que vous souhaitez. D'ailleurs, nous vivons dans un pays où règne la liberté d'expression, c'est heureux. Mais en tant que citoyen, vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer en français parce que la langue de la République est le français. Or, la République est constituée de citoyens. Dans votre dimension citoyenne, si vous voulez, vous avez un droit au français. Il revient à l'État d'organiser les conditions d'exercice de ce droit.
Ah.
Là, on touche au cœur des choses, voilà. et au cœur même de notre mission.
Mais donc, par exemple, si vous voulez, lorsque nous avons, je prends le citoyen moyen qui se balade dans Paris, lorsque par exemple nous sommes sur les Champs-Élysées, nous cheminons et que nous voyons une foultitude de publicités dans des langues étrangères et notamment en anglais ou en anglo-américain, est-ce que c'est pas un petit peu choquant que sur notre grande ou nos grandes avenues, il y ait une telle floraison d'enseignes étrangères? Attention, si c'est le nom d'une société, ça c'est différent.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer entre les marques et la publicité.
Voilà.
Les marques, par définition, sont des formules qui sont d'ailleurs déposées, comme on dit. Et de ce point de vue, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une entreprise de déposer une marque en anglais,
soit
en anglais, en italien ou dans n'importe quelle langue. D'ailleurs, il ne s'agit pas, encore une fois, de bouter hors de notre paysage linguistique des marques qui s'exprimeraient en langue étrangère. D'ailleurs, la dimension linguistique d'une marque est assez faible. Une marque, c'est un symbole. Alors, il se trouve que ce symbole s'exprime dans la langue, mais c'est d'abord un symbole.
Non, c'est plutôt la transformation du français de certains noms.
Ce que vous pointez, c'est plutôt l'usage publicitaire qui est fait de langues étrangères, et notamment de l'anglais. Sur ce point, la loi en français est très claire. La loi que je citais tout à l'heure, la loi du 4 août 1994, elle dit, on peut parfaitement utiliser des slogans dans une autre langue, mais il faut qu'ils soient traduits en français. Ah. Et pourquoi faut-il qu'ils soient traduits en français? Eh bien, tout simplement parce que nos concitoyens ont le droit, garanti par la loi, de recevoir une information et de s'exprimer dans leur langue. Il y va de leur information, de leur bonne information. Parfois, il y va de leur santé.
Mais ce n'est pas toujours le cas.
Ça n'est malheureusement pas toujours le cas, et c'est à cela que nous devons veiller. Alors, nous ne veillons pas seuls, loin s'en faut. Il y a des services qui, au sein de l'État, sont chargés de veiller à l'emploi de la langue française. C'est notamment la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes, la fameuse DGCCRF, le ministère de l'Économie et des Finances, qui constate des manquements à la loi et qui, le cas échéant, sanctionne ou provoque la sanction. Bien entendu.
Ah, oui.
Mais je vous le disais tout à l'heure, ça n'est pas notre rôle, nous.
Oui, non, vous, non.
Ça n'est pas notre rôle. Donc, voilà, garantir un droit aux Français. Et ce que je voudrais dire sur ce point, qui me paraît très important, c'est que cette loi du 4 août 94 a souvent été mal comprise, parce que on en a fait elle a été interprétée comme un dispositif de valorisation de l'identité nationale. Elle a été comprise comme...
De nationalisme étroit.
Mais oui, comme une machine de guerre contre l'anglais, qu'elle n'est nullement. Parce que ce que dit la loi, ça n'est pas du tout... Vous n'avez pas le droit d'utiliser des mots anglais.
Non,
ce qu'elle dit, et c'est très différent, c'est que si vous utilisez des mots anglais, il faut aussi
une traduction.
Que vous utilisiez des mots français pour permettre aux citoyens qui a un droit à sa langue de comprendre le sens du message. Et c'est important dans votre vie quotidienne, parce qu'il y va d'une information sur les produits que vous achetez, parce qu'il y va parfois de votre santé, parfois il y va de votre sécurité, tout simplement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les entreprises, les salariés sont très vigilants sur ce point.
Oui, c'est vrai.
Et vous savez que, très récemment d'ailleurs, des syndicats ont introduit des actions en justice pour s'assurer qu'ils continuaient de leur être permis de travailler dans leur langue,
sur des
modes d'emploi rédigés en français.
C'est très important.
C'est très important. Alors, cela, je dirais, c'est le cœur de notre mission. Et cela touche le monde du travail, bien sûr, mais aussi le monde de la recherche scientifique. Cela concerne, au premier chef, les médias, et puis, bien entendu, l'univers de la publicité. Alors, ça n'est donc pas la seule mission de la délégation générale. Nous avons également d'autres priorités. La moindre n'étant pas qu'il nous faut aussi tenter de mettre la langue française au service de la cohésion sociale, puisque la maîtrise du français est une condition de l'épanouissement personnel, de l'insertion sociale et professionnelle dans la société, de l'accès au savoir et à la culture. Et c'est toute la problématique de la maîtrise partagée du français et de la lutte contre l'exclusion linguistique. Je pense notamment à ce sujet si important de l'intégration linguistique des migrants que nous suivons de très près. Il nous revient aussi, et c'est peut-être notre autre mission régalienne, avec la première que je détaillais tout à l'heure, de contribuer à enrichir et à moderniser la langue française. Nous assurons le secrétariat de la Commission Générale de Terminologie. Il faut faire en sorte que le français continue à exprimer les réalités du monde contemporain, puisse désigner des réalités nouvelles, économiques, scientifiques, techniques, lorsqu'elles apparaissent.
Et pourquoi ne le ferait-elle pas, hein? Je veux dire, il n'y a aucune raison pour que le français ne puisse pas entrer de plein pied dans la modernité,
comme
il le fait d'ailleurs.
Bien sûr, simplement, la langue ne le fait pas toujours spontanément. Et il faut donc l'aider à produire les termes qui permettront de désigner ces réalités nouvelles.
Surtout que dans le domaine technologique, c'est vrai que les Anglo-Américains ont une puissance de créativité, je ne sais pas si on peut appeler ça la créativité, mais en tout cas une puissance importante.
Tout à fait considérable, bien
considérable.
Sûr. Et puis alors, nous avons une mission qui est intervenue tardivement, peut-être, dans nos problématiques. Vous me demandiez tout à l'heure si le rôle de la délégation avait changé au fil des années, depuis le milieu des années 60. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous nous préoccupons aussi de la diversité linguistique. Et nous nous en préoccupons doublement, à la fois parce que nous sommes également chargés de promouvoir les langues de France, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une langue de France? Eh bien, par définition, c'est une langue qui n'est pas le français, qui est parlée depuis plus d'une génération sur notre territoire et qui, en même temps, n'est pas la langue officielle d'un autre pays. Et on peut ranger dans cette catégorie les langues régionales, le breton, l'occitan, le basque.
Combien y a-t-il de langues de France ?
On en dénombre 75. Il y en a 400 qui sont parlées sur notre territoire. La France est le pays qui a le plus riche patrimoine linguistique d'Europe.
Encore aujourd'hui. Ah là, vous surprenez là.
Ah oui.
Je ne savais pas qu'il y avait 400.
Tout à fait. En Île-de-France, vous avez sans doute plus d'une centaine de langues qui sont couramment parlées.
Oui, mais parfois des langues qui viennent de l'étranger à ce moment-là.
Mais alors, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, vous avez 75 langues de France. Sur ces langues de France, vous avez des langues régionales, le basque, le breton. Et puis, vous avez des langues non territoriales, comme l'arabe dialectal, le berbère, les créoles, qui sont parlées sur le territoire de la République, pas nécessairement d'ailleurs sur le territoire métropolitain, sur le territoire de la République. Et puis, un grand nombre de langues, c'est pourquoi ce chiffre de 75 langues peut vous paraître tout à fait excessif. Sur ces 75 langues, il y en a une trentaine qui sont parlées en Nouvelle-Calédonie et sans doute par quelques centaines de locuteurs seulement.
Ah oui, d'accord. Hein?
Mais, et donc, on met sur le même plan, parce qu'elles sont toutes égales en dignité, bien sûr, toutes les langues sont égales en dignité, l'arabe et puis une langue parlée en Guyane française, n'est-ce pas ? C'est pas tout à fait du même ordre, vous en conviendrez. Alors, cette action en faveur de la diversité linguistique, et je terminerai sur ce point, fait système, si vous voulez, enfin, cette action de valorisation des langues de France, avec une action très délibérée que nous menons pour promouvoir le plurilinguisme, le multilinguisme, la diversité linguistique en général, à partir de ce constat très simple qui est que le français ne se sauvera pas seul. Ou bien nous réussirons à sauver toutes les langues.
Ou bien nous sombrerons avec toutes.
Oui, que le français soit beaucoup moins menacé que beaucoup d'autres langues. En réalité, le français ne l'est pas du tout. C'est ce qui nous amènera peut-être à parler du français dans le monde.
Vous êtes d'accord avec Claude Agege, globalement.
Tout à fait.
Aussi, d'ailleurs.
Tout à fait. Ne serait-ce d'ailleurs que parce que le français est assis, si je puis dire, sur un bassin démographique tout à fait important.
C'est important.
Et j'en fais souvent la remarque, cela fait sourire mes interlocuteurs, mais la France a la chance d'avoir un dynamisme démographique tout à fait considérable. Nous avons l'indice de fécondité le plus élevé en Europe après l'Irlande. Et nos voisins nous l'envient. De sorte que nous devrions pouvoir, dès 2035, dépasser le nombre de locuteurs allemands.
Très belle nouvelle. Et si vous voulez, nous nous quittons un instant et nous allons reprendre dans quelques minutes. À tout de suite.
Canal Académie vous propose une nouvelle rubrique, l'Académie des blogs. On estime qu'actuellement, il s'ouvre un blog toutes les 2 secondes dans le monde et nous ne pouvions pas passer à côté d'un tel phénomène de société, surtout lorsque les académiciens s'y mettent aussi. Alors retrouvez tous les lundis un blogueur du monde de l'édition, de la presse, de l'enseignement ou tout simplement amateur de littérature pour associer l'utile à l'agréable. En compagnie de David Abiker et d'Élodie Courtejoie, nous vous emmenons à la découverte de la crème de la blogosphère.
Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Xavier Norte, qui est le délégué général à la Délégation générale de la langue française et aux langues de France. Nous allons évoquer avec lui la fameuse semaine de la francophonie qui court du 10 au 20 mars, si je peux me permettre. Monsieur Norte, alors, cette semaine de la francophonie, va-t-il se passer ?
Ça n'est pas à proprement parler une semaine de la francophonie, c'est une semaine de la langue française.
Ah oui.
Parce que la francophonie ne se réduit pas à la langue, bien entendu, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore. C'est une semaine de la langue française qui est organisée traditionnellement chaque année autour du 20 mars, qui est la journée internationale de la francophonie, ce qui explique cette petite ambiguïté. Et cette semaine, c'est une occasion pour nos compatriotes, mais au-delà, pour tous ceux qui aiment le français, d'exprimer leur attachement à la langue française et de la célébrer joyeusement. Et chaque année, nous nous efforçons de choisir un thème pour l'édition 2007, qui aura lieu, comme vous venez de le rappeler, du 10 au 20 mars. Nous avons choisi pour thème les mots migrateurs.
Très joli.
Il faut peut-être expliquer les raisons pour lesquelles nous avons choisi ce thème. Qu'est-ce qu'un mot migrateur ? Eh bien, un mot migrateur, c'est un emprunt d'une langue à une autre. Et en l'occurrence, nous avons voulu mettre en évidence les emprunts du français aux autres langues, mais aussi les emprunts des autres langues au français.
Ah oui.
Parce que on ne le sait pas assez, mais le français a émigré dans les autres langues. Vous avez un très grand nombre de mots français ou d'origine française dans les autres langues, à commencer bien entendu par l'anglais, dont la moitié du vocabulaire est d'origine anglo-normande.
Si ce n'est pas plus.
Mais qui a continué à emprunter, tout au long du 18e, du 19e et même du 20e siècle, au français. Et certains linguistes pensent que de toutes les langues du monde, le français est celle qui a le plus donné aux autres langues. Alors, c'est intéressant de le relever parce que
oui, tout à fait.
On a un petit peu le sentiment en France que nous sommes comme bombardés par des mots venus d'ailleurs, et notamment aujourd'hui par des mots anglais. Ça n'est pas faux. Le français a emprunté à l'anglais au cours des 10 dernières années plus qu'il ne lui l'a emprunté au cours du dernier siècle.
Oui, ce qui est considérable.
C'est la raison pour laquelle il faut d'ailleurs s'en soucier, s'en préoccuper et chercher pour éviter que la langue soit comme dénaturé par un apport massif
oui,
de mots.
Qui risque de quand même de changer le visage.
De changer le visage de la langue. C'est la raison pour laquelle il faut chercher, notamment dans des champs très précis, le domaine scientifique, le domaine économique, etc., des équivalents français, quand on le peut.
Vous avez des possibilités extraordinaires. Pensez à l'année de l'Arménie. Et si je me permets de poser une colle à monsieur le délégué général, c'est plutôt un échange entre nous. Comment dit-on « monsieur » en Arménie ?
Baron, je crois.
Ben vous le savez, c'est formidable, voilà. Bravo.
je ne parle pas arménien baron. Couramment.
Non,
hein.
Non. Mais
bien que l'arménien occidental soit une des langues de France.
Ah,
oui.
Vous voyez, donc j'ai bien fait de poser la question sur l'Arménie.
Elle n'était pas,
pas intempestive. Bravo, et ça remonte aux croisades.
Et ça remonte aux croisades, en effet.
Alors, revenons à nos moutons, si j'ose dire.
Et donc, les mots migrateurs, donc les emprunts du français aux autres langues et des autres langues au français. Pourquoi ce thème? Eh bien, pour montrer qu'en réalité, et le montrer de la manière la plus vivante, la plus concrète, qu'une culture n'est pas un composé stable.
Non,
une culture,
ça
n'est pas un composé chimiquement pur. Une culture, en réalité, n'est rien d'autre que le jeu de force qu'une culture entretient avec toutes les autres cultures avec lesquelles elle est en contact. Et la langue permet parfaitement de percevoir cette caractéristique.
Et quels sont ces quelques mots migrateurs?
Eh bien, dans un moment où notre pays réfléchit à son identité, parce qu'il se trouve à la veille d'une échéance électorale importante, il n'était pas absurde de poser cette problématique d'ensemble. Alors, des emprunts. Les emprunts. Nous avons choisi une dizaine de mots de mémoire. Abricot, qui vient de l'arabe.
Qui vient de l'Arménie.
Et qui vient
prunus.
Originellement, oui, c'est la prune arménienne. C'est la prune d'Arménie. La prune précoce. Cette prune précoce, c'est l'abricot. Donc, abricot, qui nous vient de l'arabe via l'espagnol et le portugais, mais c'est, l'abricot, c'est l'albarcouc arabe. On ne dit pas, albarcouc aujourd'hui en arabe, on dit, mishmesh, je crois. Mais, en tout cas, c'est un mot qui vient de l'arabe. Amour vient de l'occitan parce que, si on avait suivi la logique phonétique de la langue, on dirait « amour », comme « flore » en latin, a donné « fleur ».« Amour » vient de « amor », donc aurait dû donner « amour ». Mais non, on dit en français « amour ». Et pourquoi dit-on « amour » ? Parce que c'est un emprunt à l'occitan, troubadour, etc.
C'est la belle période.
Absolument.
Belle période.
C'est pour rappeler cette belle période des apports des langues
d'oc au
français.
C'est vrai que ce sont des mots magiques, hein. Ce sont des mots magiques, ces mots migrateurs.
On a choisi aussi de faire des petits clins d'œil à l'actualité. On a choisi Bachibouzouk, qui est d'origine turque, qui désigne ces hussards venus de Turquie. Chacun pense à la célèbre invective du capitaine Haddock. Nous célébrons cette année le centenaire de la naissance d'Hergé, donc on a voulu faire un petit clin d'œil à Tintin.
Très gentil,
ce faisant. Alors, vous trouvez dans ce choix, dans cette petite sélection, le mot bijou, qui nous vient du breton.
Bijou
vient du breton. Bizarre, dont l'origine est plus controversée, mais dont on s'accorde aujourd'hui à penser qu'il vient de l'italien, pour rappeler cette grande vague d'emprunts des 15e, 16e siècles, où un très grand nombre de mots italiens se sont installés dans la langue française.
Et justement, vous me faites penser à la chose suivante. À part l'anglais, est-ce qu'il y a actuellement une autre langue qui offre beaucoup de support au français?
Non, justement, c'est un des problèmes. Parce que le français se trouve dans un tête-à-tête déséquilibré avec l'anglais.
Désespéré,
je ne sais pas.
Difficile.
Mais je voudrais rebondir sur ce mot désespéré. Vous savez, lorsque le français a emprunté massivement à l'italien au XVIe siècle, la plupart des mots italiens qui se sont installés dans la langue française en sont repartis. Rien ne vous dit que les mots anglais que nous utilisons aujourd'hui ne repartiront pas. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous en donner un exemple que chacun connaît. Aujourd'hui, vous dites « dopage ». Eh bien, il y a 10 ans, vous l'avez oublié, tous les médias parlaient de doping. Essayez de dire doping aujourd'hui, on vous dira, mais qu'est-ce que c'est que ce mot ringard?
C'est vrai.
N'est-ce pas?
Donc, c'est vrai. Aujourd'hui, doping, c'est dopage.
Oui, doping a été expulsé de la langue française, qui lui a substitué un mot qui est beaucoup plus conforme, disons pour faire vite, au génie de la langue, qui est dopage. Donc, pas de désespoir.
Surtout pas de désespoir. Je faisais un peu l'avocat du diable, en disant
alors,
ça.
Parce que... Justement, pour l'évoquer, nous avons choisi parmi ces 10 mots un mot d'origine anglaise, clown.
C'est d'origine anglaise, ça.
Bien sûr, clown est un mot d'origine anglaise, clown en anglais. Ouais. Ah, d'ailleurs, sa graphie est tout à fait anglaise. Et si nous l'avons choisi, c'est justement pour provoquer une petite réflexion et pour faire comprendre à nos concitoyens qu'il n'y a pas de mots étrangers dans la langue. Il n'y a que des mots d'origine étrangère.
Lorsqu'emprunt, il y a... Le distinguo est important.
Mais il n'y a pas de mots étrangers. À partir du moment où la langue fait usage de ces mots, il s'installe et se naturalise dans notre langue, un peu comme pour le droit du sol.
Très bonne chose.
Il y a une espèce de droit du sol. Oui. Il s'installe dans la langue et deviennent des mots français et sont interprétés comme des mots français. Clown, qui est un mot absolument anglais dans sa graphie, mais pas nécessairement dans ses sonorités.
Sa prononciation, oui.
Mais oui, parce que nous l'avons naturalisé. Nous l'avons assimilé et nous en avons changé la prononciation. Nous disons clown au lieu de dire clown. N'est-ce pas? Eh bien, c'est un mot qui a été donc assimilé tel quel graphiquement et à peu près tel quel phonétiquement par la langue française et qui donc aujourd'hui est un mot français.
Donc vous êtes plutôt optimiste, on peut dire un peu en conclusion de cette deuxième partie d'émission, vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir en ce sens que vous pensez qu'il va y avoir des mots vont rester, d'autres mots vont partir.
Bien sûr, et la langue va évoluer.
Bon.
Elle ne cesse pas d'évoluer. Et ce qui est important, c'est qu'elle continue à évoluer. Alors, il faut parfois un peu l'aider à évoluer, je le disais tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est son dynamisme interne, qui est lié, bien entendu, à toute une série de facteurs sociaux, politiques, économiques, à des rapports de force internationaux. Et ceci va nous amener à évoquer, bien entendu, la place de la langue française dans le monde.
Il ne faut pas sombrer, évidemment, dans l'angélisme.
Non.
C'est vrai que il y a un livre d'un ancien ministre des Affaires étrangères, M. Hubert Védrine, qui vient de sortir, et qui, lui, bien entendu, pense qu'il faut être tout sauf des anges.
Oui.
Voilà la fin de la deuxième partie de cette émission avec M. Xavier Nort, de la Délégation Générale de la Langue Française et aux Langues de France. À tout de suite.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture ou encore les ouvrages primés par les académies. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Chers auditeurs de Canal Académie, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Xavier Nort, délégué général à la langue française et aux langues de France. Alors, cher Xavier Nort, vous nous avez présenté les grandes lignes, certaines des grandes lignes de la délégation générale. Vous nous avez parlé de cette semaine de la langue française du mois de mars qui approche. Et maintenant, il serait bon, je crois quand même, de présenter à nos auditeurs une sorte d'un peu de synthèse, la situation du français dans le monde. Alors, pour vous, comment est-elle cette situation du français dans le monde? Comment la voyez-vous?
Eh bien, écoutez, moi je dirais 2 choses. La première, c'est sans doute que le français... dans la période récente, et nos compatriotes le vivent parfois un peu douloureusement, changer de statut. Elle a changé de statut et de langue universelle, qu'elle était, enfin universelle au sens où elle était censée être une langue dominante, elle est devenue une langue d'influence mondiale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et elle ne joue plus aujourd'hui, il faut le dire nettement, dans la même cour que l'anglais, du tout. les chiffres.
Je dirais qu'elle joue différemment, si vous permettez.
Voilà, c'est ça. Donc, elle pas dans la même cour.
Elle
joue différemment. Aujourd'hui, vous savez, vous avez sans doute quelques 3 milliards d'individus sur la planète, enfin, entre 2,5 millions et 3 milliards de personnes, qui ont une connaissance au moins minimale de l'anglais.
Autant que ça.
Ah oui.
D'où tenez-vous ces chiffres si
ce sont des statistiques qui viennent du British Council.
Est-ce que vous croyez qu'ils sont vraiment réels?
Parce que
vous savez, les Anglo-Américains, je connais un tout petit peu comme vous, c'est souvent un peu le côté gonflette, quand même.
Prenez simplement une ère de culture ou de civilisation qui nous est, par définition, plus familière que d'autres. L'Europe, aujourd'hui en Europe, une Europe à 480 millions de locuteurs, vous avez un Européen sur deux qui a une maîtrise au moins minimale de l'anglais. 40, c'est les statistiques de l'Union européenne. Celles-là, elles sont absolument incontestables.
Ça veut dire que donc la moitié des Européens, adultes, j'entends, d'âge adulte.
Adultes, enfants, vieillards, enfin tout ce que vous voudrez, ont une connaissance au moins minimale de l'anglais.
Oui, mais minimale, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que soit ils ont l'anglais pour langue maternelle, c'est le cas des Britanniques et des Irlandais, grosso modo.
Ça fait 15,9% des Européens ont une langue maternelle anglais.
Oui, ou bien ils la maîtrisent comme une langue seconde dans les pays du Nord, enfin dans les pays nordiques, je pense aux Pays-Bas ou à la péninsule scandinave. C'est aujourd'hui pratiquement le cas aussi en Allemagne, où pratiquement tout le monde a une connaissance minimale de l'anglais.
Mais minimale, c'est quoi? C'est 200 mots ou 300 mots?
C'est probablement un peu plus. Non, vous avez aujourd'hui un Européen sur deux qui a une maîtrise de l'anglais, un Européen sur trois qui a une maîtrise de l'allemand, je crois que c'est 30%. Et puis, un peu plus d'un Européen sur quatre qui a une maîtrise du français. Ce qui n'est déjà pas mal.
Non, c'est pas mal, mais je suis un peu étonné, et je m'en excuse comme nous dialoguons, je suis un peu étonné par ces chiffres parce que les quelques éléments que j'ai pu voir moi-même dans des documents ne me donnaient pas cela. Je ne veux pas vous contredire, mais j'avoue que je suis un peu étonné par ces chiffres.
C'est considérable.
Un Européen sur trois a de très bons rudiments de l'allemand.
Oui, 30%.
Alors que l'allemand est en perte de vitesse en Europe?
Oui, mais attendez, vous savez, le bassin démographique de l'Allemagne est assez considérable. Et puis si vous ajoutez à l'Allemagne l'Autriche, si vous ajoutez les marches de ce monde germanique, et même si l'allemand est en perte de vitesse, et même accéléré dans les pays d'Europe centrale et orientale, je pense à la Hongrie, à la Slovaquie, à la République tchèque, dans une moindre mesure, parce qu'on continue à y parler beaucoup.
Pour résumer, pour les Anglais, c'est une personne sur deux en Europe, une personne sur trois pour les Allemands, et une personne sur quatre pour le français.
Un peu plus d'une personne sur quatre pour les Français. Ce qui n'est déjà pas mal. Alors, ces chiffres peuvent vous étonner parce que...
Mais oui, je ne les ai jamais vus,
mais vous savez, ils sont du domaine public. Mes statistiques sont puisées dans les communiqués de la Commission européenne. Ils datent de l'automne 2005. Ils ont été confirmés en 2006.
Et vous pensez qu'il ne peut pas y avoir vraiment d'erreur? Parce que regardez, dans les sondages, la présidentielle est en train de venir. Non. Et les sondages...
Non, ce ne sont pas des sondages.
Ce sont des enquêtes.
Oui, ce sont des enquêtes.
D'accord, parfait. Non, mais alors là, vous nous apportez, un éclairage qui est tout à fait intéressant, Monsieur Nort.
Oui, mais vous savez, être une troisième langue parlée, si je puis dire, pour autant qu'on puisse faire un classement, parce qu'encore une fois, les langues ne sont pas équivalentes, elles n'ont pas la même fonction, pas la même image, et donc ces classements sont toujours un peu absurdes.
L'allemand en Europe est deuxième langue, mais le français qui est troisième langue en Europe a un rayonnement mondial beaucoup plus important que l'allemand.
Voilà ce vers quoi je voulais en venir. Alors, d'une part, l'allemand est enfermé dans le monde germanique et relativement...
En Europe centrale
et relativement peu parlé, non seulement dans le reste du monde, mais même en Europe, en dehors de ce noyau central, alors que le français est partout parlé et enseigné, et surtout a un rayonnement mondial. Mais pour s'attarder une seconde sur ce point, le français a des atouts considérables en Europe. Il partage avec l'allemand, et avec l'allemand seulement, le privilège d'être une langue parlée par plus de deux États. Le français est la langue officielle de plus de deux États.
Ce qui est vrai.
Et l'allemand est la seule autre langue à avoir ce privilège. L'anglais ne l'a même pas, parce que l'anglais n'a aucune assise territoriale sur le continent. L'anglais n'est parlé que par deux États en Europe. Le Royaume-Uni et l'Irlande. Mais c'est tout. Le français est parlé par plus de deux États, comme l'allemand. Mais, à l'inverse de l'allemand, et comme l'anglais, l'espagnol et pour partie le portugais, le français a un rayonnement international. Un rayonnement international.
Mais est-ce que le français est menacé en Europe ou pas aujourd'hui, selon vous ?
Non, je ne le pense pas du tout. Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, d'abord parce qu'il y a un bassin démographique francophone très considérable, et il se trouve que c'est le plus vivant en Europe aujourd'hui.
Ah, c'est le plus vivant. Oui,
les indices de fécondité montrent que la France se situe tout à fait en haut du palmarès. Et donc, je le rappelais, vers 2035, peut-être 2040, selon les projections des démographes, qui sont toujours sujettes à caution, bien entendu, la population française dépassera la population allemande.
Donc c'est plutôt, oui, tout à fait, un plus. Mais comment explique-t-on, par exemple, que moi je remarque tout de même, depuis que je m'intéresse à ces questions-là de façon très précise, que nous avons mis beaucoup de temps avant d'avoir des statistiques quand même, des éléments sur quoi nous pouvions nous reposer. Si vous voulez, je remarque quelque chose, par exemple, dans le domaine de la francophilie européenne, nous n'avons pas beaucoup d'éléments sur non seulement les bons îlots francophones dans les différents pays européens. Et ça, je trouve ça surprenant, si vous voulez.
C'est parce que ces questions sont des questions extraordinairement sensibles, tant elles sont liées à la susceptibilité de chaque peuple à l'égard de son identité nationale. Et donc la question des langues est une question qui a toujours été, qui reste explosive en Europe. C'est une des raisons pour lesquelles elle n'est pratiquement pas abordée de front par l'Union européenne, alors qu'elle devrait l'être, car la question de la diversité linguistique est une question absolument centrale pour l'identité européenne, qui, justement, se définit par la diversité. Bien. Et donc, sur ces sujets, il y a beaucoup de lieux communs, d'idéologies, alors que ce qu'il faut faire, c'est prendre une mesure exacte des réalités. Il faut d'ailleurs mener une réelle politique de la langue française en Europe.
Je partage votre point de vue.
Dans cette perspective, on s'apercevrait que le français retrouve tous ses atouts, mais autrement. Ce n'est plus une rente de situation, ce que...
Alors, il retrouve ses atouts comment ?
À la fois par le dynamisme qui lui est propre.
Oui. Nous sommes dans une période, j'ai l'impression, plus dynamique que la période des années 90.
Mais bien sûr.
C'est très net.
Et parce que le pays qui en est le creuset, la France, occupe une place centrale en Europe. Et donc, vous aurez toujours besoin, à la condition que nos compatriotes
relèvent les défis,
restent attachés à leur langue, nos partenaires auront toujours besoin du français pour commercer avec nous. Et quand je dis commercer avec nous, je ne parle pas simplement du commerce économique, je pense aussi au commerce des esprits.
Ce qui est une très belle chose, voilà. c'est très important.
Je pense au commerce des esprits. Et donc, je crois qu'il faut être très optimiste sur le français en Europe. Ce qui parfois nous rend pessimistes, c'est la place du français dans les institutions de l'Union européenne. Mais gardons-nous absolument de confondre la place du français dans les institutions européennes et la place du français en Europe, dans les sociétés civiles. Le français...
Il est presque plus vibrant dans les sociétés civiles que dans le contexte des institutions européennes.
Mais vous savez, les institutions européennes, ça concerne quelques dizaines de milliers de fonctionnaires. Alors c'est un sujet passionnant, n'est-ce pas, pour les fonctionnaires. Mais les citoyens n'ont pas tous vocation, et c'est heureux, à devenir fonctionnaires, et surtout fonctionnaires européens. Donc regardons en dehors des institutions de l'Union européenne. À l'intérieur des institutions de l'Union européenne, le français a reculé parce que tout simplement, nous ne sommes plus 6. Nous sommes 27 depuis le 1er janvier.
Place pour tout le monde.
Et évidemment, dans une Europe à 6, dont ne faisait pas partie la Grande-Bretagne, qui a fait entrer le loup dans la bergerie, ce qui explique qu'aujourd'hui, un Européen sur deux a une maîtrise de l'anglais. Mais dans une Europe à 6, le français n'avait aucune difficulté à s'imposer sur l'allemand, qui était la langue des vaincus, sur l'italien, qui était enfermé dans sa péninsule, et évidemment sur le néerlandais, qui n'était guère parlé, si l'on met de côté les Flandres belges, en dehors des Pays-Bas, n'est-ce pas ?
Oui, je suis, avant que nous arrivions, hélas, à la fin de cette émission, parce qu'évidemment, le temps court, vous avez tout à fait raison, le français garde un poids considérable, et je pense même, dans le domaine scientifique, on entend tellement de gens dire, oh là là, la langue française dans le domaine scientifique, eh bien, vous avez quelque chose d'extraordinaire, c'est, que j'ai trouvé là récemment, c'est la fameuse école aux 5 prix Nobel, l'école qui s'appelle ESPCI, est une école de petite école d'ingénieurs qui reçoit 70 élèves par promotion par an chaque année. Et cette école, qui vit avec environ 8 millions d'euros chaque année, vous imaginez par rapport à Harvard, Yale, et d'autres grandes universités américaines, qui, elles, possèdent, reçoivent des dizaines de milliards de dollars, eh bien, nous avons eu 5 prix Nobel, et dont 2 très récemment, Pierre-Gilles de Gennes et Georges Charpak. Et donc, cette petite école fonctionne depuis longtemps, et voilà un bel exemple qu'on ne cite jamais dans tous les journaux où l'on parle de l'effondrement de la science française, de la langue française, etc. Eh bien, ces gens-là, avec des moyens limités, font un travail extraordinaire. Alors, en conclusion, j'aimerais, cher Xavier Nort, vraiment, très heureux de vous accueillir ici, et je voudrais vous demander, quels seraient, à l'échelle mondiale et européenne, 3 facteurs positifs pour la langue française, et mettons 3 facteurs négatifs, c'est-à-dire 3 facteurs qui nous permettent de nous réjouir, vraiment en disant vraiment cette langue française est surprenante, elle va de l'avant, elle a des atouts, et au contraire 3 facteurs qui quand même vous inquiètent. Ou peut-être qu'il n'y en a pas 3, mais enfin je... Voilà, c'est à vous le mot de la conclusion, ou les mots de la conclusion.
Alors, les 3 facteurs, je dirais, positifs seraient les suivants. D'abord, le français est présent sur les 5 continents. Il a l'atout de ne pas être enfermé dans un bassin de population comme le chinois, disons, ou l'hindi. Et sa force tient en grande partie à sa féconde dispersion dans le monde. Deuxième facteur, si la présence du français est réelle sur les 5 continents, au nord comme au sud, alors que l'espagnol est essentiellement une langue du sud, en dehors de l'Espagne, l'espagnol n'est guère parlé au nord. Enfin, il est vrai qu'il est parlé de plus en plus aux États-Unis. En tout cas, si la présence du français est réelle sur les 5 continents, son appropriation par un grand nombre de pays est un fait. C'est-à-dire que le français ne nous appartient plus en propre.
Et beaucoup de gens nous le font bien sentir.
Exactement.
Le butin de guerre des Algériens.
Tout à fait.
Et nos cousins québécois qui trouvent qu'aussi parfois nous n'allons pas assez vite, etc., etc.
Enfin, bon. Exactement.
Et le troisième facteur.
Exactement. Et le troisième facteur, je crois, c'est que, et là il faut faire intervenir des facteurs institutionnels, c'est que le français peut aussi s'appuyer sur une structure institutionnelle dont il est le lien fondateur et qui est la francophonie, le mouvement francophone, enfin ce qu'on appelle en termes institutionnels l'Organisation internationale de la francophonie, qui peut jouer un rôle, si du moins elle ne perd pas sa référence au lien fondateur, un rôle très positif pour le français dans le monde.
Et là, ce que vous dites est très vrai, parce qu'il y a une évolution considérable depuis le premier sommet francophone de 1980. Je me souviens de Jacques Leprêtre, hélas décédé aujourd'hui, mais qui a été parmi ceux qui ont organisé ce sommet, qui disait, la plupart de mes collègues pensaient que ça serait le premier et le dernier sommet. Donc je n'invente rien en disant ça. Et alors les 3 facteurs, disons...
Vous me permettez d'en ajouter un quatrième?
Oui, volontiers, volontiers.
C'est que le français, partout où il est parlé, est toujours parlé avec d'autres langues. Il est toujours dans une situation de contiguïté avec d'autres langues, avec lesquelles il doit partager en quelque sorte.
Qui pense aux autres.
Absolument. Et il est donc naturellement confronté au pluralisme linguistique. Ce qui lui confère un rôle de médiation, si vous voulez, dans la mondialisation. Et je crois que c'est très important. Il est naturellement confronté au pluralisme linguistique.
C'est très important.
Ça n'est plus une langue d'empire.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs qui vous inquiètent? Parce que, bon, je posais la question, je voudrais pas terminer, bien sûr, notre émission sur quelque chose de négatif, mais il faut aussi voir nos faiblesses et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose, 1 ou 2 points, ou 3 points même, qui nous inquiète rapidement, évidemment?
Oui, en réalité, ce qui peut inquiéter, en France comme ailleurs, mais surtout en France, puisque nous restons le creuset du français.
Oui,
n'est-ce pas? On peut concevoir une France sans langue française, peut-être, mais certainement pas une langue française sans la France.
Oui,
c'est impensable.
Ça paraît impensable.
C'est impensable.
C'est impensable.
Et bien justement, ce qui m'inquiéterait, ce serait peut-être une forme de résignation à l'égard de la langue d'empire. Et c'est lié, en réalité, à l'extraordinaire appétit des Français pour la mondialisation. Contrairement à ce qu'on pense, nous ne sommes pas du tout un pays recroquevillé sur lui-même, attaché frileusement à son identité, à sa langue.
Je partage votre
point
de vue.
Pas du tout. Pas du tout. Nous avons le souci de nous projeter en dehors de nous-mêmes. Et comme nous voyons qu'il y a un outil qui permet de se projeter en dehors de soi-même, qui semble être aujourd'hui l'outil de tous,
c'est le
globish, ce que Michel Degui appelait d'une très jolie formule, le désespéranto.
Oui, très beau. Très belle formule.
Cet anglais de communication internationale, cet anglais
c'est
de 200 ou 400 mots.
Tout à l'heure, le terme de désespéré,
oui,
justement. Enfin,
exactement.
J'y avais pensé.
Enfin, vous savez, le désespéranto, c'est le code de la route. Tout le monde doit savoir le code de la route pour circuler. C'est pas ça qui vous permet de respirer ou de vivre.
Et d'avoir des réflexes.
Et d'avoir des réflexes. Exactement.
De bons réflexes.
Et d'avoir de bons réflexes. Parce que les bons réflexes, on les a dans sa langue, quand on pense avec son disque dur. Alors c'est ça qui pourrait m'inquiéter, c'est sans doute une forme de résignation qui a un versant très positif, si vous voulez, à l'égard de la langue de l'Empire.
De l'Empire, oui.
Et
une sorte d'accablement.
Oui, une sorte d'accablement. Mais en même temps, j'en vois peu de signes.
Et puis nous sommes un peuple de ressources, nous réagissons.
Oui.
Enfin, nous ne réagissons jamais assez, mais nous réagissons tout de même. Bien écoutez, je crois que le moment est venu de nous quitter, mais ce n'est qu'un au revoir, si j'ose dire, parce que vous êtes bien sûr le bienvenu quand vous le souhaitez.
Merci.
Sur notre antenne. Bien sûr, cette émission, les auditeurs peuvent la télécharger quand ils le souhaitent dans notre médiathèque. Merci infiniment, monsieur Nord.
Merci.